Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je voulais revenir vous voir, mais bon, ça s'est pas fait. André m'a finalement appelé il n'y a pas si longtemps et on a réussi à convenir d'un dimanche. Je suis super, super content d'être avec vous ce matin. C'est vrai qu'il y avait un défi à préparer cette prédication. J'avais à la fois la possibilité de présenter un petit peu ce qui se passe dans mon ministère. En même temps, André m'a dit « Allez, tu peux apporter la parole ». Et puis finalement, le Seigneur, il a décidé encore tout autre chose, puisque j'ai l'impression qu'il m'a parlé cette semaine et j'avais un message pour les adolescents. Je me suis dit « C'est bien beau tout ça, mais je vais peut-être arriver et il n'y aura absolument pas d'adolescents ». Et c'est pas exclusivement pour les adolescents, mais c'est quand même en grande partie un message par rapport à voilà ce que je vis avec mes enfants. Et puis Michel, il y a deux minutes, me dit « Aurèle, je te préviens, les ados vont être là ce matin ». Donc je lui dis « Bah écoute, je crois que c'était écrit ». Donc je suis vraiment heureux parce qu'en fait, en plus, le thème de ce matin, c'est vraiment de marcher dans les pas du Seigneur et d'être exactement là où il nous veut. Et c'est pour ça que j'avais commencé avec cette image de... Alors, je sais pas si ça va marcher. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc je pense que vous reconnaissez ce petit bâtiment. Le psaume que vous voyez là, c'est un psaume iconique. Le psaume 121, versets 3 et 4, vous verrez plus tard, on va y revenir. Mais je pense qu'on va y apporter un petit quelque chose. On va absolument pas évidemment changer le thème du verset, de ces deux versets. Mais vous allez voir que ces versets vont pouvoir peut-être nous éclairer différemment ce matin. Alors le titre, c'est « Reste dans ta voie ». Bon, je m'excuse, hein, c'est un peu une mauvaise traduction française de quelque chose que j'ai peut-être reçu et peut-être que c'était un petit peu anglais. Voilà, il y a du « Stay in your lane », »,« Reste dans ta voie ». Mais je vais vous expliquer tout ça après avec cette image que j'ai l'impression d'avoir donc reçu. On m'a présenté tout à l'heure, voilà, évangéliste, pasteur aussi, c'est vrai que je fais beaucoup de... j'ai suivi le cursus et j'ai l'expérience quand même du pastorat, donc je vais voir les gens et j'aime les gens et j'aime les écouter. Je parle aussi un peu trop des fois, mais voilà, j'aime quand même à la base écouter les gens. Et donc je vais à l'église comme vous le dimanche, non pas en tant qu'évangéliste, mais en tant que disciple de Jésus avec ma famille, tranquillement. Et c'est vrai que souvent, on reçoit des missionnaires. Et je m'aperçois que très souvent, il y a ce côté chez le missionnaire, chez certains missionnaires, que je ne citerai pas, et voilà. Mais il y a un côté un petit peu commercial. Je ne parle même pas de la partie argent, etc. Je dis juste qu'il y a un côté où on vient présenter son ministère. C'est ça le but du dimanche matin. Le missionnaire repart. Et j'ai pas toujours l'impression que le missionnaire a donné son temps pour l'église qu'il vient visiter. Et moi, très souvent, en tant que, voilà, comme vous, assis, je me dis, ça aurait été sympa qu'il ait un mot pour nous. Et alors moi, ce matin, je vais très peu parler de moi, en fait. Je vais très peu parler de mon ministère, parce que j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit que j'avais un petit quelque chose à partager avec vous ce matin. Donc on aura peut-être d'autres occasions en 2025, 2026, je viendrai vous présenter un peu plus en détail mon ministère. Mais ce matin, c'est pour vous. Et j'ai envie que ce soit, entre guillemets, voilà, cadeau. Alors voilà, je vais commencer avec cette image. L'Eurovision, ma femme est suédoise. L'Eurovision, c'est une... c'est une institution en Suède et on a essayé de regarder ça et au bout de quelques minutes j'étais absolument, alors j'ai pas de mots, j'ai même pas pu sélectionner une image. Je voulais sélectionner une image pour vous, mais je me suis dit on peut pas dans une église, dans le temple de Dieu, mettre à l'écran. Donc j'ai juste mis le logo et déjà rien que le logo. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'Eurovision, si vous voulez voir où on en est à peu près en ce moment dans notre société, si vous voulez une sorte de baromètre ou de... Alors on a eu à peu près tout ce qu'on peut avoir de plus démoniaque. J'ai ma fille à un moment qui m'a mis la main sur le genou, elle m'a dit « Papa, il faut absolument arrêter ». C'est elle qui, petite enfant de 12 ans, qui a ressenti que rien de ce qu'on voyait venait du Seigneur. Et voilà, j'ai mis ce texte ni voix ni voix, parce qu'au niveau des voix, j'ai pas vraiment entendu des chanteurs. Il y avait pas vraiment de Frank Sinatra dans la. Et puis ni voix, bon là, le jeu de mots, j'ai pas vraiment vu la voix vers quelque chose qui nous élève vers le plus haut, mais plutôt des voix qui nous rabaissent. Voilà, c'était d'une tristesse absolue. Et je me suis posé des questions. Parce que mes enfants, ils ont le discernement de dire « Papa, il faut éteindre la télé », voilà. Mais leurs copains n'ont pas forcément cette chance-là. Et on a vu vraiment toutes les dérives. Et ces dérives, elles sont en train de se passer en ce moment dans les écoles, un petit peu partout en Europe. Et je trouvais que c'était important, ce matin, de juste très rapidement rappeler exactement où on en est en ce moment. Parce qu'on pourrait penser que c'est de la science-fiction, mais c'est en train de se passer. Donc très rapidement, trois exemples, ou quatre, on va commencer avec les trois premiers. En Hollande, en ce moment, aux Pays-Bas, on a des publicités qui expliquent que si vous êtes veuf ou veuve, vous pouvez avoir recours à l'euthanasie pour aller retrouver votre être cher. Et la publicité, littéralement, explique que la mort est douce quand on meurt ensemble, etc. Donc voilà où on en est en Hollande par rapport à ce qu'est la vie qui est ce don sacré de Dieu. Voilà ce qu'on en fait en Hollande. Ensuite, le fait qu'ici, on a une variété de personnes, on a des hommes, des femmes, voilà, on a chacun un passé différent, une expérience différente, un cursus culturel et religieux différent, etc. Mais tous, on peut quand même être défini par le fait qu'on est voilà, des hommes, des femmes. Et on a, en ce moment même aussi, en Europe, dans des pays comme en Suède, des enfants qui, à n'importe quel âge maintenant, peuvent décider de devenir un petit garçon, devient une petite fille devient un petit garçon. Et on a, en ce moment même aussi, des médecins, des chirurgiens suédois qui reviennent sur les décisions qu'ils viennent de prendre depuis 10 ans en disant « ça ne marche pas ». Le niveau de déprime augmente, le niveau de maladie mentale augmente. Ils ont 75% des personnes qui changent de genre, qui au bout de 2 ans ou 3 ans veulent revenir au genre original. Donc ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà pour la Hollande, voilà pour la Suède. En Angleterre, c'est juste voilà un programme que je suis qui est sur l'Angleterre de la période victorienne. Et comme on est dans le révisionnisme historique, alors on met des minorités qui n'existaient pas à l'époque ou qui étaient très peu représentées, tout un tas de minorités, et on change complètement le texte historique, qu'il soit bon ou mauvais, mais on le change. Donc on s'attaque à tout. Les absolus. L'ennemi, tout à l'heure le frère parlait du travail du diable, l'ennemi il vient attaquer littéralement tout ce qu'on devrait, quand même, les choses auxquelles on pourrait normalement se raccrocher. Comme, la vie, le droit à la vie, notre genre, et comme on vient de le dire, notre histoire. C'est quand même des choses qui font que tu et toi, Michel est comme elle est, André est comme, voilà, Peter, etc. Et on essaie de nous retirer tout ça aujourd'hui. Alors, je vais changer, ça va nous faire des vacances, on va enlever cette... voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Je suis la voix. Alors, évidemment, j'ai changé la traduction, mais le texte grec, on peut prendre « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On peut aussi traduire ce mot grec par « voix ». Donc ça ne change absolument rien. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai choisi cette image qui est une image réelle d'un endroit réel dans le Wyoming où il y a une illusion d'optique et on a littéralement l'impression que la route monte jusqu'au ciel. Il n'y a aucun effet spécial pour cette photo. Et j'ai choisi cette image parce que dans quelques instants, je vais vous partager ce message que j'ai reçu pour vous, mais je voulais nous mettre bien dans les rails, dans les bons rails, et vous expliquer que c'est vrai que des fois, on essaie de courir après le bonheur, on essaie de courir après une identité, on essaie de C'est ça, voilà, c'est ça que mes enfants me racontent dans leurs écoles. C'est cette recherche, non pas juste cette recherche de bonheur, mais ce que tous leurs copains, ce que toutes leurs copines expliquent, il y a une recherche d'identité. Qui suis-je? Quelle est ma place dans ce monde? Est-ce que je vais devenir connu sur Instagram? Est-ce que je vais réussir à faire The Voice, pour reprendre le jeu de mots du mot voix? Il y a cette recherche d'identité, cette recherche de bonheur. Et moi, je voulais vous expliquer aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devrait rechercher. Et c'est un mot qui est mystérieux. Et je voudrais qu'on arrive aujourd'hui tous à comprendre ce que veut dire ce mot. Ce mot, c'est le shalom. Le shalom. Et le shalom, c'est pas juste la paix. Le shalom, c'est aussi se sentir construit, se sentir au bon endroit. Le shalom, on pourrait même traduire, c'est avoir cette certitude qu'on est exactement là où Dieu vous veut. Et si à la fin de mon petit sermon aujourd'hui, en toute humilité, si à la fin de la prière, parce qu'à la fin je voudrais prendre un temps pour prier pour vous, vous avez ou la certitude que vous êtes exactement là où Dieu vous veut, où vous voyez où est cette voie que vous devez rejoindre. Vous savez exactement où elle est. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à la rejoindre. Eh bien, j'aurai réussi ma mission ce matin. Donc en ce moment, il y a des fois où je regarde les infos et ça ressemble un petit peu à ça des fois, quand je finis de regarder les infos, ou que je finis d'entendre les histoires que mon fils Eli, qui a 15 ans, et ma fille Abigail, qui a 12 ans, me racontent de leurs écoles. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Pendant quelques instants, le père de la famille, voilà ce qu'il voit. Une route la nuit, il y a un peu de brouillard, je peux juste me raccrocher tout juste aux lignes jaunes au milieu. Et pendant quelques instants, voilà à quoi ressemble la panique quand il me raconte certaines choses. L'anxiété. Et puis, il y a un moyen d'arriver à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on marche, on a l'impression de marcher comme ça en pleine nuit et de tituber, mais en même temps on marche dans les pas de Jésus qui a marché avant nous. Voilà à quoi ça ressemblait quand lui marchait à son époque. Il allume la lumière, il nous montre exactement où on va, et même si c'est passé 2024 années, eh ben on peut avoir la certitude qu'il a marché dans nos pas, il sait exactement ce qu'on traverse, et il va nous aider à atteindre ce shalom. Ça m'aide ces petits slides parce que je parle beaucoup et j'aime bien improviser et on peut y être pendant 5 heures. Donc ma femme insiste pour quand voilà, je vais visiter les églises que je reste bien dans les rails et ces slides m'aident. Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles, je vais lire de toute façon le passage. C'est un psaume que vous connaissez évidemment. Bien, il est absolument iconique, c'est un des psaumes les plus connus. Je vais le lire quand même, et vous allez voir la manière avec laquelle Dieu, il me semble, m'a parlé par rapport à ce verset, et vous allez voir, on va lui apporter quelque chose d'un petit peu, peut-être pas nouveau, mais en tout cas un angle original. « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Amen. Quel psaume absolument merveilleux. Quand je cite le mot Israël, je ne parle pas de l'état d'Israël de Netanyahou aujourd'hui, parce que je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Dieu ne m'a pas parlé à ce niveau-là. Mais par contre, voilà un verset qui était pour Israël à l'époque, pour l'Israël biblique, et un verset qu'on peut quand même, nous, peuple de Dieu aujourd'hui, on peut quand même s'accaparer ce verset. Quand on sait qu'on a ce shalom de Dieu, quand on sait qu'on est exactement là où il nous veut, et on va y revenir pour que je puisse vous donner peut-être les moyens d'être exactement là, que ce soit au collège, au lycée, dans votre job, avoir cette certitude d'être exactement là où Dieu vous veut. Parce que si vous arrivez à ça, je peux vous assurer que toutes les circonstances de la vie vont vous passer complètement au-dessus. Les épreuves, les circonstances, les défis, les challenges, tout ça, c'est, je suis en plein dedans, moi. Ça fait 15 ans que j'ai des hauts et des bas, mais je ne les sens absolument pas. Parce que je suis exactement là où Dieu me veut. Il m'a fallu du temps pour ça, et je veux, mon souhait le plus profond, c'est qu'on arrive à ça aussi ici à Aubergenville, et que si je reviens dans un an, vous veniez me voir pour me dire « Ah là là, c'est incroyable, on a prié, et j'ai cette certitude, j'ai ce shalom de Dieu. » On va revenir sur ce verset, et vous allez voir ce qu'on va pouvoir en retirer. Alors j'ai évidemment pris quand même cette image de ce qui se passe en ce moment. Vous savez de quoi il s'agit, mais ça peut représenter d'autres conflits armés en ce moment. Et c'est vrai que je vous partageais cette image tout à l'heure de la route la nuit. Et des fois, voilà, on regarde le 20h en famille. Et quand je finis, quand j'éteins la télé, le 20h, ce que j'y ai reçu, ce que j'ai entendu, plus les news quotidiennes de mes enfants, juste ce qu'ils ont entendu à l'école. Il y a des moments vraiment difficiles. Et c'est à la suite de ce coup de fil d'André qui me dit « Viens à Aubergenville » que je regardais le 20h avec ma famille. J'ai éteint la télé et je me suis isolé pendant quelques instants. Et j'avais le besoin vraiment de prier. C'était un des pires 20h que j'avais jamais vu. C'était littéralement un film de science-fiction. On aurait dit « Regardez les films catastrophes ». Mais sauf que ce n'était pas une catastrophe, c'était 25 catastrophes pendant 30 minutes. On a dû demander aux enfants de s'en aller alors que ça reste le 20h. Je suis allé me mettre dans un coin et j'ai commencé à prier. Et j'étais vraiment, pendant quelques instants, perdu. Et j'ai reçu une image. Une image qui, pour moi, est une image pour vous, qui est pour moi, mais elle est pour vous ce matin. Avant de vous expliquer avec un petit peu plus de précision quelle était cette image, je voudrais juste revenir pour ceux qui douteraient de la place biblique de l'image quand on reçoit une image de Dieu. S'il y a quelqu'un dans l'église ce matin qui doute que ce soit un des dons du Saint-Esprit, il n'y a absolument aucun souci. Mais je veux juste vous lire Jérémie 1, verset 11. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante. » Du côté du septentrion. On va s'arrêter là. C'était juste pour vous dire que l'image est vraiment un des moyens utilisés par Dieu avec le songe, avec le rêve, avec les paroles de sagesse, avec les paroles de connaissance. L'image est vraiment quelque chose, voilà, que l'on peut recevoir, que l'on peut demander. Vois. Quand tu reçois une image, je voulais vous expliquer pour ceux d'entre vous qui n'en ont jamais eu, et je souhaite que vous en ayez parce que c'est merveilleux, à quoi ça ressemble de recevoir une image. C'est comme si vous aviez, en l'espace d'un instant, une image arrêtée, c'est-à-dire une seule image, pour ceux qui sont très techniques, c'est un JPEG, juste une image. Quand vous la recevez, c'est juste une image, mais elle se download, elle se télécharge dans votre cœur, comme si c'était un cartoon, un dessin animé. Donc comme si c'était non pas un JPEG, mais un MPEG, un petit film. Donc c'est une image, mais quand vous allez l'expliquer, ça peut être un film qui dure 15 minutes. C'est absolument merveilleux. Et donc moi j'ai reçu une image en une seconde, mais pour vous l'expliquer, voilà, ça va prendre plus d'une seconde. C'était un jour où mon fils est rentré pour dire qu'un de ses amis est mort avec sa fille dans un terrible accident de voiture. Et j'ai reçu ça en plein visage après avoir regardé le 20h et je pouvais pas gérer tout ça. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui, voilà, comme notre ami, qui il y a quelques jours a eu un accident de voiture, mais là, cette personne n'a pas été gardée. Ce n'étaient pas des chrétiens, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui? Pas forcément. En tout cas, j'ai reçu cette image de trois voies. Il y a la voie des véhicules lents, il y a la voie des véhicules à vitesse modérée, qui hésite entre être dans la voie des véhicules lents et la voie des véhicules rapides, et il y a la voie des véhicules rapides. En Île-de-France, vous connaissez, vous savez mieux que moi, que la voie des véhicules rapides, on aime bien, moi je suis toujours sur la voie des véhicules lents, à conduire comme une mémé, mais les personnes sur la voie des véhicules rapides ont tendance à être tête à queue, sans respecter la distance de sécurité. Et voilà cette analogie, cette métaphore que j'ai reçue en une image. Le peuple de Dieu, nous, ici, vous à Aubergenville, vous êtes sur la voie des véhicules lents. Vous avez un tracé, un trajet qui est prédestiné. Et quoi qu'il arrive, vous arriverez à bon port. Quoi qu'il arrive, vous arriverez à votre destination. Il n'y a rien dans ce bas monde qui peut faire que votre véhicule n'arrivera pas à destination. Vous avez une bande d'arrêt d'urgence. Des fois, comme sur ces contre-allées, on a un terre-plein central. Des fois, les voies de véhicules lents sont protégées. Ça arrive des fois quand on est sur des contre-allées, elles sont protégées. Vous êtes protégés. Vous avez votre voie à vous. Et vous devez vous occuper de votre voie à vous. Le peuple de Dieu, les disciples de Jésus, qui seront dans la Jérusalem céleste un jour, ils sont sur cette voie des véhicules lents avec vous. Ils ne vont pas venir vous pousser aux fesses. Ils ne vont pas essayer de vous doubler. Sur cette voie de véhicules lents, on est tranquille. Mais on est tenté. On regarde toujours la voie des véhicules moyens, à moyenne vitesse. Et on se dit, ah, ça a l'air sympa quand même. Moi, j'ai une petite voiture, vous voyez. Alors, des fois, je les vois, ils ont des plus gros véhicules. Et je pourrais, pendant l'espace d'un instant, dire, ça a l'air plus sympa quand même, ça a l'air plus rock'n'roll sur la voie des véhicules moyens. Et puis, des fois, mon regard va jusqu'à la voie des véhicules rapides. Et là, mes amis, ce que Dieu, j'ai l'impression qu'il m'a dit il y a quelques heures, c'est ne t'occupe pas de ça. Ne regarde pas ça. C'est pas ta famille, tu peux avoir de la compassion, mais jamais au détriment de la joie que tu as dans ton cœur. Reste focalisé sur ta voie, reste dans ta voie. Quelques jours plus tard, on apprenait que cet homme qui conduisait avec son enfant avait atteint des vitesses, il était à pas loin de 200 km/h sur une toute petite route de campagne. Ça n'excuse rien. Ça n'enlève rien à la tragédie. Mais Dieu m'a dit, ne t'occupe pas, ne viens pas pleurer et perdre ta joie dans le Seigneur pour des histoires où tu ne sais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne connais pas, tu n'as pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui s'est passé. N'allons pas perdre notre morale, notre sourire, parce qu'on a entendu telle ou telle histoire. On ne sait pas ce qui se passe. Quand Dieu dit qu'il vous protège, il vous protège. Et quand quelqu'un dans l'église dit « Ah bah oui, mais il est censé nous protéger, mais qu'est-ce qui... » Occupez-vous juste de votre voix. Et dans notre voix, il y fait bon vivre. Et on est en toute sécurité et on peut faire le trajet tranquillement. Quelques jours plus tard, ma femme rentrait de Londres et elle m'a apporté une des confirmations que ce petit message pour Aubergenville était le bon. Elle rentrait de Londres où elle a rencontré Nicky Gumbel pour qui elle travaille, voilà, qui est quelqu'un que André et Michel, ils ont connu John Wimber, qui était l'un des mentors spirituels de Nicky Gumbel. Tout ça pour vous dire, si vous ne connaissez pas ces personnes, il n'y a aucun souci, ce sont des hommes de Dieu, voilà, à l'écoute du Seigneur. Et Nicky Gumbel a prêché pendant 3 jours devant littéralement des milliers de personnes, et son message était Stay in your lane. Reste dans ta voie. Et quand Pella m'a dit ça, j'avais les larmes aux yeux. Elle a vu les larmes dans mes yeux, elle a eu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, je crois vraiment qu'il y a un message du Seigneur. Quelques jours plus tard, mon patron, Joseph Steinberg, m'explique qu'on doit vivre nos vies de chrétiens comme des hérissons. Vous savez que le hérisson, dans toute sa vie, il va faire peut-être 25-30 mètres carrés de distance. Il va avoir un endroit de prédilection et il va avoir beaucoup de difficultés à sortir de son périmètre de sécurité. Et quand il le fait, en général, on les retrouve écrasés au bord de la route. Le hérisson devrait rester dans un périmètre de 25 à 30 mètres maximum. Il doit rester focalisé sur ce qu'on lui a donné de faire. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on doit rester focalisé sur ce que Dieu vous a donné à faire. Si vous n'avez pas encore cette mission, André, Michel, Alexis, on va prier pour vous après. Il faut que dans l'année qui vienne, vous trouviez cet endroit du shalom. Amen. Qui connaît l'histoire du petit canard jaune? Bon, personne, c'est super, je vais pouvoir vous partager. J'ai encore 10 minutes, André? Ok, ok. Bon, je ne vais pas prendre une demi-heure, mais avec la prière peut-être. Voilà la première confirmation de Pella, ma femme. La deuxième confirmation de mon patron avec le hérisson. J'ai eu la troisième confirmation. Donc, on a tous un cœur pour le royaume, j'espère. Et on a tous aussi des hobbies. Et j'espère aussi que vous avez un hobby. C'est-à-dire que vous ne passez pas juste votre temps, et si c'est le cas, Dieu soit loué, alléluia. Si vous passez juste votre temps à prier et à lire la Bible, vous êtes mon héros, et je vous admire. Moi, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup le cinéma, et depuis toujours, j'écris des scénarios. Donc, je fais des concours, des fois, je peux arriver, voilà. Et donc, on a eu là une énorme campagne d'évangélisation. Il fallait que je gère ça. Et les dates, ça s'arrêtait juste avant que je parte au Festival de Cannes. 3 jours pour juste essayer de faire lire un scénario à des producteurs. Donc, j'ai une vie particulière où je suis évangéliste. On me crache au visage dans la rue. Et puis après, je vais partir à Cannes, un chrétien au milieu des loups. Parce que je peux vous dire que Cannes, c'est un sacré milieu encore, hein. Et donc, j'ai partagé l'évangile pendant 10 jours. On a vu des choses absolument extraordinaires. Mais j'étais fatigué. Je ne peux pas vous cacher que quand j'ai quitté Paris le 10e jour, je suis allé à Paris 10 jours de suite. Il me faut 3 heures pour aller à Paris et revenir, aller-retour. Donc, 10 jours de suite, 3 heures de train par jour. Plus l'évangélisation de rue, plus les Nouveaux Testaments, les histoires extraordinaires, comme les fois où on est rejeté. Absolument éreinté. Je rentre à la maison, il faut que je fasse ma valise et que je parte à Cannes. Et là, je pars à Cannes, c'était ma première fois. Je pars avec un ami ancien musulman converti au christianisme après avoir eu une visite de Jésus, et il est maintenant 100% chrétien, et un ami non chrétien. Et dès qu'on est arrivé à Cannes, j'ai ressenti quelque chose de très particulier. J'ai ressenti comme la Bible appelle ça les principautés. Pour dire simplement, j'ai ressenti un esprit très particulier, très spécifique, qui n'est pas le même qu'il y a à Paris ou qu'il y aurait à, je ne sais pas moi, Las Vegas. Je ne suis jamais allé à Las Vegas, mais un esprit très particulier à Cannes. Et j'étais absolument éreinté au bout de 2 jours. Et ça devait être un week-end pour me reposer aussi. Et à un moment, j'ai vu le pavillon israélien. Moi, j'ai des origines juives et j'ai énormément d'amis israéliens. Encore une fois, je ne rentre pas dans la politique. Beaucoup sont anti-Netanyahou, etc. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais j'ai des amis qui sont israéliens. Et là, j'ai vu ce pavillon israélien. C'était le seul avec une garde rapprochée à l'entrée. Il fallait passer par... Voilà, parce qu'ils avaient la peur des attentats, etc. Et à la seconde où je suis rentré dans ce pavillon israéliens, ils ont juste vu mon visage. J'ai un visage assez, quand même, avec des traits assez juifs. Et quand j'ai dit mon nom, qui est Aurel Vidal, qui est aussi un nom avec une... Voilà, Vidal, c'est un nom juif. J'ai été très, très bien accueilli. Mais c'était quand même Cannes. Et Cannes, c'est compliqué. Et Cannes, c'est difficile. J'ai eu un tout petit moment de shalom. Mais ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Je me retrouve dans le train du retour. Et là, je me dis, ça y est, cette fois, je peux dormir. Le shalom, je vais l'avoir. Ça va se traduire par 5 heures de dodo dans le TGV pour rentrer de Cannes à Paris. Un homme vient s'asseoir à mes côtés. Et là, j'avais vraiment tout prévu pour me faire 5 heures de dodo. Et il commence à me parler. Et moi, j'aime les gens. Donc voilà, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas le défaut de dire non à quelqu'un qui me parle. En général, je prends plaisir à ça. Mais là, j'étais tellement fatigué. Et il ne nous reste plus que 10 minutes de trajet. Et il vient me dire à l'oreille, « Oui, tu sais, Aurel, je suis juif. » Évidemment qu'il vient me dire ça à l'oreille, puisqu'en ce moment, les attaques antisémites sont hallucinantes. C'est absolument hallucinant ce qui se passe en ce moment à Paris pour mes amis juifs. Ils peuvent plus jamais sortir avec la kippa, même pas mettre un chapeau pour couvrir la kippa. Et voilà, et c'est des agressions quotidiennes. Donc ce que vous voyez aux infos, c'est pas de l'intox. Je peux vous le dire, voilà. Donc il me dit ça de manière très discrète à l'oreille. Et quand il me dit ça, il me reste plus que 5 minutes de train. Et je commence à partager ma foi. Et que je lui explique tout simplement que moi aussi, j'ai des origines juives et que je crois en Jésus, que j'ai la foi. On finit par échanger nos numéros de téléphone. Et là, tout à la fin, avant de se quitter, je lui dis « Est-ce que tu peux me dire où tu travailles à Paris ?» Et il me donne l'endroit précis où il travaille à Paris. Et accrochez-vous, mes frères et sœurs, il travaille exactement à l'endroit où depuis plus de 8 ans, je vais donner des Nouveaux Testaments et des tracts. Et quand je vous dis un endroit, je parle à 3-4 mètres carrés. Hein. Je parle vraiment d'un endroit. C'est-à-dire, je suis à un endroit, il y a une banque, et là, il y a une pharmacie, c'est le pharmacien. Et cet homme m'a confirmé, il s'appelle Adam. C'est son faux nom, parce que les vrais noms, je ne les donne jamais pour protéger la sécurité des gens. Il s'appelle, donc je vais donner le nom, le pseudo de Adam. Adam m'a confirmé que s'il m'avait rencontré pendant 8 ans à la sortie du métro, où il a eu des centaines et des centaines et des centaines d'opportunités de me rencontrer à cet endroit, il sort du métro où je distribue les Nouveaux Testaments et les tracts. Il m'a confirmé qu'il ne m'aurait jamais parlé parce qu'il y a un côté religieux et ce n'est pas son truc. Mais là, on venait de connecter de manière émotionnelle et spirituelle. Il m'a donné son numéro de téléphone, il m'a demandé de venir le revoir. Il m'a aussi partagé qu'il avait des amis survivants de la Shoah. Et moi, j'ai des amis survivants de la Shoah. Et donc, on va se retrouver ensemble avec nos amis survivants de la Shoah. Et on va pouvoir, dont certains maintenant croient en Jésus. Et on va pouvoir tout simplement partager notre foi. Ça, mes amis, il peut m'arriver n'importe quoi. Il peut m'arriver absolument n'importe quoi. Ce sentiment d'être exactement là où on doit être. Je suis même parti au festival de Cannes. Dieu m'a rencontré exactement là où j'étais. Il y avait les paillettes, il y avait tout ça. Il était avec moi. C'est comme si je voyais ses traces de pas dans le sable, près de la plage. J'en viens à cette dernière histoire. Parce que ça n'a pas toujours commencé par cette certitude d'être dans le shalom. Et c'est une petite histoire, je vais la raconter rapidement et on va finir par celle-ci. J'étais en Turquie et je devais m'occuper d'enfants handicapés. Et quand je suis arrivé en Turquie, en mission, on m'a dit, pour dire bonjour, il faut dire « Allah smaharuldak » en arabe. C'est un dialecte un petit peu propre aux Turcs d'Ankara. Et ça veut dire « comment ça va ?» Ça va bien. Donc tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis « Allah smaharuldak » et la personne dit « oui, bah, j'espère que tu vas le trouver ». I lost my little duck en français, c'est j'ai perdu mon petit canard. Donc on se croisait comme ça entre chrétiens dans les rues d'Ankara, et puis il y en a un qui disait j'ai perdu mon petit canard. Et l'autre répondait j'espère que tu le trouves, puisque I lost my little duck, qui est de l'arabe, hein, ça a exactement la même symphonique que si on disait I lost my little duck. Tout le monde a compris ou pas? Ok. Et donc, on se fait cette blague pendant toute la semaine, et voilà. Et à la fin, moi, je suis épuisé, je suis complètement éreinté, c'est le dernier jour, et le leader du groupe vient me voir, et me dit, Aurel, il faut que tu pries pour tout le groupe. Et je lui dis, non, impossible, je suis absolument épuisé. Il m'a dit, non, c'est moi le leader, pas toi, Aurel. Il faut que tu pries pour tout le monde. Alors, j'obéis hein, quand on me donne des ordres. Et je lui dis, mais je suis vraiment fatigué. Il me dit, partage avec le Seigneur. Partage avec Jésus ce que tu ressens. Et donc, je ferme mes yeux et je dis, Seigneur, je suis éreinté. On est tous complètement, c'est vraiment le mot, éreinté. On n'a plus aucune énergie. C'est nos derniers jours. Je ne sais pas si on va pleurer ou rire. Mais en tout cas, on a envie de te dire qu'on est content que tu sois avec nous en ce moment. Et au moment où j'ai dit « Amen », la porte au fond de l'hôtel s'est ouverte. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, moi, j'étais dans un canapé. C'est encore plus loin que l'arbre que vous voyez derrière. Vous voyez l'arbre tout là-bas ? Voilà, ça, c'est la porte du lobby de l'hôtel. Donc, à peu près au niveau de l'arbre, un petit canard jaune, comme ça, rentre dans l'hôtel, traverse tout l'hôtel. Tac, 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 tac. Il met une bonne minute à traverser l'hôtel et on le voit sous nos yeux. Je viens de finir la prière et il se met juste devant moi. Il vient se poser devant moi. Moi, je prends mon appareil photo. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et je prends la photo que vous voyez là. Je prends le petit canard dans mes bras. C'est une autre photo que je pourrais vous envoyer par email si vous voulez, mais là, j'avais pas le temps. Et je dis, le petit canard, on l'a trouvé. Et là, tout le groupe se met à rire, à pleurer parce qu'on est tous fatigués et on ressentait la présence de Jésus au milieu du groupe. Et on a chacun goûté à ce qu'est le shalom. Le shalom, c'est cet instant où vous savez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Amen. Alors maintenant, je ne sais pas exactement, André va m'aider. On va peut-être se diviser en petits groupes et peut-être que je... Mais j'avais vraiment à cœur de partir d'ici et de revenir un jour et d'être accueilli par un Hallelujah. Amen.